Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série hors du commun concernant le salut et nous arrivons à l'étude numéro 7. Aujourd'hui, nous avons plié le genou et ouvré les bras. C'est ce que nous continuons donc de l'étude numéro 6. Nous sommes donc à l'étude numéro 7 qui continue par plier le genou et nous devons ouvrir les bras. Saint Matthieu chapitre 11 versets 25 à 27. En continuant dans le chapitre 11 de l'Évangile selon saint Matthieu, nous commençons notre examen des versets 25 à 27. Cette section commence par les mots « en ce temps-là ». Elle nous enseigne que nous ne devons pas nous contenter de pointer du doigt ce que nous avons vu dans l'étude numéro 7, mais qu'il nous faut aussi plier le genou. Comment le Fils de Dieu réagit-il face à toute l'indifférence à laquelle il lui faut faire face? L'indifférence, c'est quelque chose qui est très difficile à surmonter. L'indifférence, c'est quelque chose qui brise parfois l'esprit du prédicateur. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et plonge l'homme qui prêche dans l'abattement. Comme le Fils de Dieu réagit-il face à cette indifférence? Comment répondit-il en présence de tel rejet? Il est le Fils de Dieu venu sur terre, et nous le savons, et nous le croyons. Mais ses auditeurs n'ont pas les yeux, non, ils n'ont pas les yeux pour voir cela. Son identité est évidente, mais ils ne la reconnaissent pas. Tout s'écrit partout. Dieu est parmi vous, Emmanuel est venu. Mais voilà que personne ne montre la moindre lueur d'intérêt. Partout on dit que Dieu est parmi nous. Emmanuel est venu. Jésus est là, mais personne ne s'y intéresse. Comment Jésus réagit-il face à une telle situation? Jésus n'a pas cessé d'être tout ce qu'il a été de toute éternité. Face à l'indifférence des hommes, il en parle avec son Père. Sur le champ, il plie le genou dans la prière. Vous et moi, nous devons faire de même. Et le passage nous en donne la raison. Notez Saint Matthieu chapitre 11, verset 25. Il est dit qu'en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Saint Matthieu 11, verset 25. Quand vous avez prié comme vous ne l'avez jamais fait auparavant, quand vous avez prêché comme vous voudriez toujours prêcher, et que vous avez pleuré même devant votre auditoire, Pourquoi tant de ces gens demeuraient-ils dans l'indifférence? Quand vous avez démontré que l'Évangile est vrai à l'évidence et que vous avez répondu à toutes les objections, pourquoi continuent-ils les gens à le rejeter? Quand vous avez exalté le Seigneur Jésus dans votre prédication et que, humainement parlant, vous ressentez que vous n'auriez pas pu exposer sa gloire mieux que vous ne l'avez fait, pourquoi les gens demeuraient-ils tels qu'ils sont? C'est en raison de leur cœur qui est mort. Leur cœur est méchant et dur comme la pierre. Ce sont en quelque sorte des ennemis de Dieu, tout comme je l'étais moi-même autrefois. Ils sont ainsi parce qu'ils veulent être ainsi, tout comme je l'étais aussi. Ils ne veulent pas changer. Ils sont parfaitement contents de rester comme ils sont. Ils sont pleinement et personnellement responsables de leur état. Mais je ne peux pas oublier que moi aussi, j'étais comme eux. Il ne faut pas se voiler la face. Il faut essayer d'être assez honnête et de reconnaître ce qu'on était loin de ce qu'on aurait dû être. Et quand nous avons dit cela, nous avons dit la vérité, mais nous n'avons pas dit toute la vérité. Regardez à nouveau le verset 25. Il y a un Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus-Christ. Il est Seigneur de la terre et des cieux. Existe-t-il un lieu dans tout l'univers qu'on puisse décrire comme ne faisant pas partie des cieux et de la terre? Cela signifie que Dieu règne absolument partout, ou pour le dire d'une autre manière, qu'il n'y a nulle part où il ne règne pas. Comme nous l'enseigne le verset 25, le Dieu universellement souverain se cache et se révèle à la fois. Pour illustrer cela, imaginons deux frères. Appelons-les David et Jean. Ils ont eu la même éducation, ils jouissent des mêmes privilèges, ils fréquentent la même église et écoutent le même prédicateur. En réalité, ils sont assis l'un à côté de l'autre chaque dimanche au culte. À l'écoute de votre prédication un jour, voilà que David s'écrie soudain « Oh, maintenant je vois. » Mais Jean demeure tel qu'il est. Assis à côté de son frère David, il le voit tellement excité de voir maintenant ce qu'il ne pouvait pas discerner auparavant. Et de retour à la maison, Jean n'est pas différent de ce qu'il a toujours été, mais le cœur de David danse dans sa poitrine. Le cantique avec lequel le culte s'est terminé, c'était « Seigneur, j'étais aveugle, je ne voyais rien. » Et David est presque tombé en extase quand on l'a chanté. Quelque chose lui est donc arrivé. L'explication ne repose pas dans le message, parce que vous n'avez pas prêché d'autre vérité que celle que vous prêchez d'ordinaire. il n'y avait rien non plus de différent dans le culte. Les deux hommes ont déjà chanté dans leur enfance tous les cantiques qu'on a chantés aujourd'hui. Si ce qui s'est produit, c'est qu'une main invisible, mais pleine de bonté, a coté les écailles, a carrément ôté, oui, ôté, a enlevé, voilà ce que j'aimerais dire, a enlevé les écailles qui recouvraient les yeux de David. C'est ce que j'aurais aimé dire tout de suite. Il est donc lui-même, d'ailleurs, le premier à le reconnaître. Votre propre cœur est en feu à cause de votre choix, car vous comprenez que Dieu se dévoile et se révèle. Alors pourquoi Jean demeure-t-il tel qu'il est? Eh bien, c'est parce que Dieu se voile aussi. Oui, oui, il le fait réellement. Le Seigneur Jésus nous dit ici que parfois Dieu cache ces choses merveilleuses aux sages et aux trop intelligents. C'est parce que les gens se disent « je vois » qu'ils ne peuvent pas voir. C'est parce qu'ils se disent « je comprends tout » qu'ils n'ont pas d'intelligence. Tant qu'ils se considèrent capables par eux-mêmes de tout savoir et de tout comprendre, de l'un ou de l'autre, ils en seront incapables. Ce n'est que quand ils disent « je crois que je ne vois ni, ne comprends rien du tout ». C'est là qu'on peut dire que la lumière commence, oui, la lumière commence à luire sur eux. Ça paraît incroyable, mais c'est vrai. Dieu ne se révèle pas à ceux qui pensent de tout savoir. Il n'entre en compte qu'avec, je dis entre les guillemets, les enfants. Ça ne veut pas du tout dire qu'il faut être un imbécile. Ça ne veut pas dire ça. Que devons-nous apprendre de tout cela? Dieu est à l'œuvre absolument partout. Non seulement cela, mais il est à l'œuvre partout et tout le temps. Il est à l'œuvre à chaque fois que l'Évangile est prêché, accomplissant son décret éternel. Il possède un plan de salut qui ne dépend ni d'un ange, ni de vous, ni même de moi. Ce plan découle de son propre cœur et il concerne sa gloire éternelle. C'est un plan qui s'accomplit à tout moment et dans chaque circonstance. C'est sérieux. Dieu exerce une souveraineté complète, même là où ses créatures font des choix réels et sans contrainte. Dieu agit avec ses créatures comme il le veut. Ceci demeure vrai, alors même que les gens rejettent la prédication de sa sainte parole. C'est ce que le Seigneur Jésus déclare clairement dans le passage devant nous. Aussi, quand les gens demeurent indifférents à son message, il est en mesure de chercher la face de son Père et de lui dire « Je te loue ». Prêcher comme Jésus, cela signifie plier le genou comme il l'a fait. Dieu est Dieu. Il fait ce qu'il veut. C'est pourquoi nous devrions l'en remercier et l'en louer. Oui. Parce que Dieu est Dieu, il n'a pas de raison à donner. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Saint Matthieu 11, verset 26. Pourquoi est-ce que Dieu ne laisse-t-il pas périr chaque homme, chaque femme, jeune ou enfant? Il le pourrait. Pourquoi sauverait-il quelqu'un? Évidemment, il ne sauve pas tous. Pas parce qu'il ne le veut pas. C'est parce qu'eux ne le veulent pas. Après tout, la prédication n'est-elle pas ce que nous méritons tous? Pourquoi ne nous laisse-t-il pas, chacun de nous, aller à la destination que nous méritons? Il ne donne pas de raison. Étant donné que Dieu possède la puissance de sauver tout être humain, et il tient, et il détient véritablement cette puissance-là, pourquoi ne sauverait-il pas chaque membre de la race humaine? Pourquoi ne sauve-t-il pas tout un chacun d'entre nous, sans exception? Pourquoi n'accueille-t-il pas tout le monde au ciel, comme les Bavarois chantent à la fête de la bière? Wir gehen alle, alle in den Himmel. Nous allons tous arriver au ciel. C'est trop beau pour être vrai. Il ne nous donne pas de raison. Pourquoi alors Dieu sauve-t-il certains et pas d'autres? Il n'est pourtant pas raciste. En règle générale, pourquoi cache-t-il l'évangile à ceux qui voient si clair en beaucoup d'autres domaines? Et pourquoi se révèle-t-il à ceux qui, aux yeux du monde, ne comptent pas pour beaucoup? On pense parfois, oh, ils sont un peu bizarres. Chers amis, pliez le genou devant Dieu, parce qu'il est Dieu et qu'il n'a pas à donner de raison. Face à ces mystères, il vous faut choisir entre deux choses à faire. La première consiste à passer le reste de votre vie à chercher la réponse à toutes ces questions. Le problème est que vous n'y parviendrez jamais. Seul Dieu peut comprendre Dieu. Lui seul comprend qui il est, ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Chercher à comprendre ce que seul Dieu comprend, ça c'est une voie insensée à emprunter. Elle ne peut mener que à la frustration, à l'irritation et un continuel casse-tête. L'autre chose que nous pouvons faire, et il faut préciser que c'est la seule alternative, c'est de plier le genou et de nous soumettre au règne de Dieu dans une adoration qui ne pose pas de questions. Adorons-le humblement, sans trop vouloir poser des questions. Dieu est bon. Si donc il choisit certains et pas d'autres, ce doit être juste, car Dieu est juste. Si donc il vient à la rescousse de certains, comme il est venu à la rescousse de ma personne, qui était très loin de lui plaire, et qui laisse les autres dans la perdition, ce doit être juste, car Dieu est sage. Si donc il est capable de sauver tout homme sans exception, mais n'en sauve que certains, ce doit être sage. Dieu est par définition saint, tendre et entièrement juste. Et c'est pourquoi tout ce qu'il fait doit porter la marque de ses caractéristiques. Si vous voulez prêcher comme Jésus, vous devez faire face au mystère, puis vous devez murmurer dans la révérence, et vous devez dire « Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » La philosophie humaine ne se nourrit pas d'un tel esprit. Un questionnement incessant, cela n'engendre pas une soumission dans la prière. Plier le genou humblement. Notez Saint Matthieu chapitre 11 verset 27. Il est dit que toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils. Si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Et celui à qui le Fils veut le révéler. C'est Matthieu chapitre 11, verset 27. Y a-t-il quelqu'un sur la terre pour comprendre ce verset-là, pour vraiment, vraiment le comprendre? Qui peut pleinement saisir ce que Christ déclare ici, que tout ce que Dieu fait, il le fait au travers de Christ, que seul le Père connaît le Fils, que seul le Fils connaît le Père, que celui qu'on ne peut pas connaître peut être. Être connu si le Fils le révèle. Le Seigneur Jésus-Christ déclare toutes ces choses-là. Il nous dit la vérité, mais il ne cherche même pas à nous expliquer comment il peut en être ainsi. Suivre la voie du Maître, cela signifie faire quelque chose de semblable. Cela veut dire que nous devons déclarer la vérité sans trop chercher à comprendre comment il peut en être ainsi. Cela signifie réaliser que nous pouvons annoncer aux autres ce que dit la Sainte Bible sans ressentir l'obligation de démontrer absolument tous les rouages qui font que la chose est ainsi. Un des facteurs qui, au cours des années, a été utilisé pour aider ma foi personnelle, c'est ce que la Sainte Bible enseigne au sujet de Dieu. Ça m'a vraiment aidé. La doctrine biblique de Dieu est si belle qu'elle doit être ininventable. Elle est remplie d'un tel équilibre, de distinctions si délicates, de telle complexité, de pensées si impensables, de profondeur et de telles merveilles qu'elle n'a pas pu être vraiment révélée comme on l'aurait voulu. Et pour suivre la voie de Jésus, eh bien, vous devez admirer le mystère. Il y a là certains mystères que nous ne pouvons pas toujours expliquer et comprendre. Ça ne veut pas dire que nous sommes bouchés ou stupides. ça ne veut pas dire cela du tout. Il vous faut adorer les mystères, mais ne pas vous perdre dans la spéculation et dans la philosophie. C'est aussi un mystère à proclamer, mais en le faisant, ne cherchez jamais à tout vouloir expliquer. Dieu est Dieu, et vous n'êtes, sauf erreur du contraire, que un homme ou une femme, et c'est tout ce que vous serez jamais. C'est pourquoi humilions-nous et plions le genou. Et ensuite, il est dit, ouvrez les bras. Saint Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. Oh, la bonté et la sévérité de Dieu. Romains, chapitre 11, verset 22. Oui, étonnons-nous de la bonté et de la sévérité de Dieu. Avez-vous déjà entendu des paroles plus dures que celles rapportées au verset 20 à 24? Pointez du doigt, rappelez-vous. Avez-vous déjà entendu des paroles plus respectueuses que celles contenues dans les versets 25 à 27, pliez le genou. Avez-vous déjà entendu des paroles plus douces que celles que nous allons maintenant examiner ensemble au verset 28 à 30? Nous allons voir la dureté et la fermeté de Dieu m'ont poussé à dire, rappelez-vous, pointez du doigt, la gloire de Dieu m'a conduit à dire, pliez le genou. Et sa grande bonté, sa pure tendresse m'engage maintenant à dire, ouvrez les bras. Ouvrez les bras et invitez. Oui, Jésus vous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Saint Matthieu, chapitre 11, verset 28. Qui est invité? Un pasteur qui rend des visites à une église voisine de la sienne, réprimanda sévèrement le pasteur de cette église en raison de l'ouverture de sa prédication de l'Évangile. Il ne croyait pas qu'il était possible à quiconque voulait être fidèle à l'Écriture d'offrir l'Évangile aussi librement que ce pasteur l'avait fait lors de son sermon. En réponse, il lui demanda ce qu'il avait à dire à ceux qui n'étaient pas convertis, qui sont restés tels qu'ils sont depuis toujours. Il répondit par ce verset, Saint Matthieu, chapitre 11, verset 28, qu'il se mit à expliquer de la manière suivante. Eh bien, je donne la loi à ceux qui ne sont pas convertis, puis je cherche à leur montrer la gloire de Christ. Puis une fois qu'ils ont acquis quelques sentiments de honte et quelques compréhensions de leurs besoins, quand ils ressentent le poids de leur fardeau et manifeste quelques brisements, je leur dis, le Fils de Dieu déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je m'oppose résolument, chers amis, à ce genre de discours, et j'espère sincèrement que vous le faites aussi. Pourquoi cela? Eh bien, parce que Jésus, le Fils de Dieu, ne dit pas vraiment « Venez à moi, vous tous, qui avez conscience d'être fatigués, et vous tous qui avez le sentiment d'être brisés. Vous qui êtes donc personnellement conscients de la lourdeur de votre fardeau. Tout homme et toute femme sur cette terre est fatigué et chargé, aujourd'hui plus que jamais. La question 19 du petit catéchisme de Westminster donne un résumé exact de l'enseignement de la Sainte Bible sur ce point-là. Question. Quel est donc l'état de misère dans lequel l'homme est tombé? Réponse. Par sa chute, l'humanité tout entière a perdu la communion avec Dieu et s'est placée sous la colère et sous la malédiction du Seigneur. Aussi a-t-elle été assujettie à toutes les misères de la vie présente, à la mort et aux souffrances de l'enfer pour toujours. Quel terrible fardeau portent donc ceux qui ne sont pas convertis, qui ne sont pas sauvés. Ils ne prennent aucun plaisir en Dieu et ne connaissent rien de la consolation que le Seigneur procure. Il est pour eux plutôt un ennemi plutôt qu'un ami. C'est donc plus proche de l'ennemi que de l'ami. Ils traversent la douleur, la maladie, connaissent le chômage, l'anxiété, le deuil et toutes les autres choses qui attristent le cœur humain sans bénéficier du moindre repos venu du ciel. Ils ne peuvent pas échapper à la pensée de la mort, et son spectre grandit et s'assombrit à mesure que les années passent. Leur conscience leur répète qu'ils sont condamnés et que très bientôt, ils comprendront la pleine réalité de ce que cela veut dire. Tout cela est un fardeau beaucoup trop lourd à porter pour n'importe quel homme. Mais c'est un poids dont ils sont incapables de se débarrasser. Une partie de leur terrible état de péché est qu'ils ne réalisent pas combien ce fardeau les écrase. Le Seigneur Jésus invite à venir à lui quiconque est ployé par un fardeau écrasant. Et cela, en toute honnêteté, cela signifie tout le monde. Mais souvenons-nous qu'il est aussi celui qui vient de parler au sujet de l'élection. Juste quelques instants auparavant, il parlait à son père au sujet du fait que celui-ci se cache et se révèle. Or le voici maintenant qu'il ouvre en grand, il ouvre ses bras pour annoncer à quiconque est dans le monde, « Venez à moi ». Les hommes et les femmes de Chorazin se trouvent toujours au milieu de la foule qui écoute. Ils ont entendu la prédication du Seigneur Jésus et ils ont entendu sa prière. Les habitants de Bethsaïda sont encore là, eux aussi, ainsi que les gens de Capernaum, qu'il a décrit comme étant de pires pécheurs, même pires que les hommes de Sodome. Il n'y a personne qui ne soit invité par le message de l'Évangile. Voyez-vous, Christ invite donc tous ceux, mais absolument tous ceux qui veulent bien l'écouter. Et l'invitation à venir à Christ que vous lancez dans votre prédication, elle doit être tout aussi ouverte si vous voulez prêcher comme Jésus l'a fait. Elle doit être aussi libre et gratuite, aussi directe et sans restriction, aussi dépourvue d'exceptions et aussi universelle que la sienne. Si ce n'est pas le cas, alors vous et votre maître marchez sur des voies un peu différentes. C'est pourquoi je vous le dis, ouvrez les bras et invitez. Chers amis, quelle est l'invitation? Il ne s'agit pas de s'éloigner, de garder ses distances, mais de venir. Ce n'est pas une invitation à venir au christianisme, ni même à aller dans une église spécifique et de participer à ses activités, mais c'est venir tout simplement à Jésus, Jésus-Christ. Je ne suis pas naïf au point de penser que tous ceux qui écoutent ce CD maintenant sont tous chrétiens. Et j'espère que cela est vrai de vous aussi. Je désire que vous sachiez que le Seigneur Jésus-Christ, par son esprit, continue de s'adresser à votre cœur au travers de sa sainte parole et qu'il est en train de le faire alors que vous écoutez ce CD maintenant. Votre péché est peut-être pire que celui des gens de Chorazine, de Bethsaïda ou de Capernaum. Il se peut que vous possédiez non seulement une Bible et un grand héritage chrétien. Votre problème, c'est que la foi chrétienne est seulement quelque chose que vous avez absorbé. Elle n'est jamais vraiment, vraiment devenue une partie de vous-même. Mais je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas du tout obligé de rester éloigné de Christ une seconde de plus. Vous n'y êtes pas obligé. Jésus vous invite à venir à lui tel que vous êtes maintenant, avec tous vos échecs et avec votre péché. S'il invita naguère autrefois les hommes et les femmes de Capernaum, qui étaient des pires pécheurs, même pires que les gens de Sodome, vous pouvez avoir la certitude qu'il vous invite aussi. Il vous dit de ne pas rester au loin une seconde de plus. Il vous invite à venir. Il l'a fait pour moi, et croyez-moi, ça ne devait pas être une petite affaire, car j'étais très loin de lui plaire. Alors ouvrez les bras et invitez. C'est le message de ce passage. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout ce qu'il nous dit, ce passage. Ouvrez les bras, d'accord? Et puis, à présent, lancez la promesse. Notez Saint Matthieu et Saint Matthieu, chapitre 11, versets 29 à 30. Il est dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos amis. Voici donc la promesse. Et vous trouverez le repos pour vos amis. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Voici la réponse. Saint Matthieu chapitre 11, versets 29 et 30. Oui, allez-y et promettez. Promettez aux hommes, aux femmes et aux enfants qui vous écoutent que s'ils viennent effectivement à Christ, il leur donnera du repos. Promettez-leur que s'ils viennent à Christ, le repos qu'il lui donnera sera dans leur âme, dans leur esprit, dans leur corps, au plus profond de leur cœur, dans le tissu même de leur être. Promettez-leur, c'est pas défendu, que s'ils viennent se placer sous sa direction et sous son règne, il ne leur donnera pas un repos superficiel et éphémère, mais quelque chose de durable. Alors promettez-leur qu'ils peuvent posséder un tel repos dès cet instant même, sans aucune attente ni la moindre condition. C'est à nous de faire le premier pas. C'est à nous. Ce n'est pas à Dieu. Il ne nous doit rien. Je crois que ce n'est pas difficile à comprendre. Je dois être assez humble de le désirer, de m'approcher de lui. Du repos, quel merveilleux mot ! Le fardeau que les êtres humains portent avant leur conversion est vraiment écrasant, mais ils n'ont pas à le porter un moment de plus. Quiconque entend l'Évangile peut entrer dans la promesse de ce repos maintenant, alors même que la Sainte Parole lui est annoncée. Les hommes peuvent donc être libérés immédiatement des terreurs de la loi et de Dieu. En un instant, ils peuvent être considérés comme étant aussi saints que Dieu l'est. Telle est la vérité étonnante de la justification. C'est un mystère. Oui, je le comprends même pas aujourd'hui, après toutes ces années. Mais je l'ai accepté. Ils peuvent d'un coup entrer en possession des privilèges les plus élevés que l'Évangile offre, ce qui est la vérité de l'adoption. Ils peuvent devenir enfants de Dieu sur le champ, et cela de manière instantanée. Leur nature tout entière peut être transformée par la présence de l'Esprit-Saint de Dieu en eux, et ils peuvent être lancés sur la voie d'une vie quotidienne de croissance dans la sainteté qui durera jusqu'au bout. Oui, ça, c'est la sanctification. Seigneur, sanctifie-moi encore davantage. J'en ai tellement besoin. Purifie mon âme. Voici ce que nous pouvons promettre au nom de Christ à quiconque se repent et croit. L'invitation de l'Évangile est d'une indicible merveille. Il nous faut présenter devant nos auditeurs, et j'ajoute auditrices, vous l'avez compris, tout ce qu'ils peuvent posséder s'ils viennent à Christ. Il leur est possible de savoir que Dieu les aime personnellement. Ils peuvent enfin échanger une conscience troublée contre la paix du cœur. Ils peuvent posséder la joie débordante qui est un élément du fruit de l'esprit et qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Ils peuvent entrer dans une vie spirituelle qui, par la grâce de Dieu, croîtra en force et ne disparaîtra jamais. Ils peuvent savoir qu'ils ne revêtiront une sainteté parfaite et une gloire éternelle à la seconde même où ils entreront dans la mort. Ils peuvent avoir l'assurance que leur corps ressuscitera pour ressembler au corps glorieux de Christ. Ils peuvent avoir la certitude d'être acquittés de toute condamnation au jour du jugement dernier. Ils peuvent jouir de la consolation victorieuse de savoir que la gloire sera leur éternelle, leur demeure éternelle, leur demeure éternelle, où il n'y aura rien d'autre que le bonheur, parce que il n'y aura rien d'autre que la sainteté. Le prédicateur de l'Évangile peut donc prêcher tout cela à ceux qui viennent à Christ. Ce sont les plus grandes et les plus précieuses promesses de l'Évangile. Alors promettez, rejetez tout ce qui vous retient de le faire et promettez tout ce que Christ promet. Après tout, c'est ça. Oui, c'est ça, cette parole que vous annoncez, et non pas votre propre théologie ou philosophie. Vous n'êtes que son ambassadeur. Mais vous ne serez pas un ambassadeur fidèle si ce que vous promettez est moins généreux et moins merveilleux que ce qu'il promet Jésus. Toutefois, il vous faut encore faire quelque chose d'autre. Eh oui. Ouvrez les bras et expliquez. Il est dit qu'or mon joug est doux et mon fardeau léger. Saint Matthieu chapitre 11, verset 30. Oui, Christ est doux et humble de cœur. Est-ce que le Seigneur Jésus fait preuve de dureté envers le pécheur qui vient à lui? Est-il jamais cruel ou peu disposé? Regarde-t-il la personne qui se lamente de ses erreurs, comme je l'ai fait moi-même, pour lui dire « Eh bien, tu sais, je te l'avais bien dit, tu es foutu, tu es perdu. » Refuse-t-il quiconque vient à lui? Repousse-t-il quiconque? Et si la réponse à toutes ces questions est un non retentissant, ne devrions-nous pas l'expliquer à l'homme pécheur qui cherche? Pensons encore, chers amis, au fardeau écrasant que tous ceux qui ne sont pas convertis, portent en ce moment même. Rappelons-nous aussi qu'il n'est pas nécessaire qu'ils le portent une seconde de plus. Comme le joug que Christ place sur les siens est totalement différent, comme le fardeau qu'il leur demande de porter est vraiment différent. Nous ne devons jamais minimiser les difficultés de la vie chrétienne. Le Seigneur Jésus lui-même enseigne que nul ne doit penser à devenir son disciple à moins de commencer par en évaluer le coût. Bien sûr, il y a un coût à payer. C'est pas automatique. Néanmoins, bien que le chrétien marche sur une voie étroite, il n'est jamais appelé à y marcher tout seul. Non. Les difficultés qu'il va y rencontrer sont réelles, et bien sûr, j'en sais quelque chose. Et elles lui brisent souvent le cœur. Mais le joug que le croyant porte n'est pas sur ses épaules toute seule, car Christ emporte l'extrémité la plus lourde. Le chrétien doit aussi savoir que parfois nous devons verser des larmes, et elles sont aussi amères que celles des autres hommes. Mais il y a un lieu secret vers lequel il peut toujours, que nous pouvons toujours nous rendre pour que ces larmes soient séchées. En devenant chrétiens, la plupart d'entre nous avons perdu un certain nombre d'amis. Ça, c'est inévitable. Mais nous nous réjouissons du fait que nous n'avons jamais vécu une seule journée sans l'amitié du Sauveur. Il n'existe rien dans la création toute entière qui soit capable de nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur bien-aimé. En terminant cette étude aujourd'hui, je vous supplie de dire tout cela à ceux que vous prêchez. C'est un message que les gens ont besoin d'entendre. Les gens ont besoin de comprendre l'Évangile. Ils ont besoin d'être assurés que l'invitation de Christ s'adresse à eux personnellement et les concerne personnellement. Ils ont besoin d'entendre combien le Sauveur est tendre et bon. Ils ont besoin qu'on leur dise que Christ ne leur ôtera pas son ancien fardeau pour l'écraser par un nouveau. Jamais. Chers amis, nous allons terminer ensemble maintenant par la prière. Que notre aide soit au nom de Dieu qui a fait le ciel et la terre. Seigneur notre Dieu, daigne éclairer nos esprits et toucher nos cœurs afin de nous rendre salutaires la lecture et la méditation de ta sainte parole. Seigneur, instruis-nous par ta sainte parole, ouvre les yeux de notre intelligence, afin que nous comprenions et que nous recevions avec humilité les choses qui appartiennent à notre paix en Jésus-Christ. Seigneur, nourris-nous de ta sainte parole, de ce pain de vie qui est destiné à faire vivre nos âmes pour l'éternité et à les faire croître en foi et en sainteté par Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur personnel. Amen. Et chers amis, n'oubliez jamais que Dieu vous aime. C'est une réalité que nous pouvons toujours garder dans notre cœur. C'est une réalité vraie. Dieu nous aime. Jésus-Christ nous aime. Il nous accorde son aide. Il nous donne le Saint-Esprit. Et même, croyez-le ou pas, il met un ange à notre disposition. Ça a l'air peut-être invraisemblable, mais si vous avez Internet, www.bibleexplique.ch, cherchez le extraordinaire témoignage de Mariette. Oui, bien sûr, vous pouvez peut-être penser que c'est imagé, inventé. C'est pas sûr. Oh non. Car si vous cherchez toute l'histoire de Marietta, vous pouvez en même temps chercher aussi toutes les études qui ont été faites concernant les anges. Donc c'est une réalité. C'est une réalité autant que, malheureusement, les esprits mauvais existent aussi. Pas plus tard qu'aujourd'hui, aujourd'hui, dans le journal qui s'appelle Le Matin, il y a toute une page où vous voyez une jeune femme, le visage dégoulinant de sang, et où il est parlé d'un divorce. Et pourtant, dans un pays où le divorce ne se donne pas comme ça à la sauvette, en Italie, eh bien, il est parlé de mauvais esprits, il est parlé de Satan. C'est pas moi qui le dis, c'est même écrit en grandes lettres dans un journal quotidien. Eh bien, croyez-moi, les anges existent, mais le contraire existe aussi, malheureusement. Et là aussi, vous pouvez trouver toute une série d'études à ce sujet-là. Je vous embrasse maintenant, car je vous aime de tout mon cœur. Je vous embrasse, chacun et chacune d'entre vous. Soyez bénis, et à demain matin, Dieu voulant, pour la suite de cette série. Au revoir.